Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Le Japon éternel voyage sous les fleurs d'un monde flottant » est un ouvrage hybride signé par Amélie Nothomb avec Laureline Amagneux, publié en 2024 chez Albin Michel. À mi-chemin entre essais culturels, livre illustré et prolongement d'un documentaire audio, il explore le Japon à travers la mémoire intime de l'autrice et plusieurs grandes voies de la culture nippone. Le livre ne cherche pas à décrire le Japon contemporain dans son ensemble, mais à éclairer ce qui a formé l'imaginaire et l'œuvre de Nothomb, l'enfance dans le Kansai. La rencontre avec les rites, les arts et les spiritualités, puis le retour réflexif sur une terre devenue mythique. Son intérêt principal est de proposer une lecture sensible, documentée et structurée du Japon traditionnel, en reliant expériences personnelles, entretiens avec des spécialistes et médiations visuelles. Il s'adresse autant aux lecteurs d'Amélie Nothomb qu'à ceux qui veulent comprendre la culture japonaise par ses symboles, ses pratiques et son esthétique de l'éphémère. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le Japon du Kansai comme matrice intime de l'œuvre de Nothomb. Le livre s'ouvre sur une idée centrale, le Japon n'est pas pour Amélie Nothomb un simple sujet de fascination, mais une origine intérieure. Son enfance passée dans la région du Kansai, près de Kyoto et Nara, est présentée comme un temps fondateur qui a façonné sa sensibilité, ses souvenirs et sa manière de penser le monde. Cette perspective donne au livre une dimension autobiographique forte. Sans en faire un récit de souvenirs au sens classique, le Japon y apparaît comme un pays vécu d'abord de l'intérieur, puis reconstruit par la mémoire, la distance et l'écriture. Ce point de départ est essentiel, car il explique pourquoi l'ouvrage ne traite pas le Japon comme un objet extérieur d'étude, mais comme une expérience existentielle. En ce sens, la culture japonaise y est toujours liée à une histoire personnelle, à une perte, à un retour impossible ou incomplet, et à la persistance d'un mythe intime. Le livre gagne ainsi en cohérence, chaque thème culturel est aussi une manière de relire sa propre formation. Deuxièmement, une cartographie des grandes voies spirituelles et culturelles japonaises. L'organisation du livre repose sur quatre grands ensembles qui structurent sa lecture du Japon, la voie des kami dans le shintoïsme, celle du bouddhisme et du zen, celle des samouraïs, puis celle de l'élégance à travers les arts. Cette architecture est importante car elle transforme l'ouvrage en parcours plutôt qu'en simple accumulation de notes culturelles. Chaque voie représente une façon d'habiter le monde, rapport à la nature et au sacré pour le shinto, discipline intérieure pour le zen. Éthique de l'honneur et du geste pour les samouraïs, raffinement et attention aux formes pour les arts. Le livre montre ainsi que la culture japonaise ne peut pas se réduire à des motifs décoratifs ou à des clichés d'exotisme. Elle apparaît comme un système de valeurs, de pratiques et de perceptions. La force de cette construction est d'offrir un cadre lisible au lecteur, tout en conservant une dimension sensible. Le Japon y est abordé comme un ensemble de chemins de transformation où la spiritualité et l'esthétique restent inséparables. Troisièmement, le monde flottant comme clé de lecture de l'éphémère et de la beauté, le sous-titre renvoie au monde flottant, ou ukiyo, notion essentielle pour comprendre l'esprit du livre. Amélie Nothomb s'appuie sur cette image pour faire du Japon un lieu où la beauté se pense avec la conscience de sa fragilité. L'éphémère n'est pas ici un détail poétique, c'est une manière d'ordonner le regard, de valoriser ce qui passe, de privilégier la justesse du moment sur la permanence. Cette idée traverse le livre à plusieurs niveaux dans les paysages, dans les rites, dans les arts et dans la composition même de l'ouvrage, qui invite à une lecture lente, attentive, presque méditative. Le titre ne désigne donc pas seulement un imaginaire esthétique, mais une philosophie du temps. En rapprochant ce concept de figures comme Matsuo Basho, le livre inscrit sa réflexion dans une tradition littéraire japonaise qui relie contemplation et dépouillement. Le lecteur comprend alors que le Japon décrit ici n'est pas un territoire figé, mais une expérience du transitoire, où la beauté naît précisément de sa disparition possible. Quatrièmement, un livre documentaire construit par la rencontre, l'entretien et l'illustration, l'originalité du livre tient aussi à sa forme. Il prolonge un podcast et reprend la logique de l'échange avec des spécialistes, des artistes et des passeurs de culture. Cette méthode donne du relief aux propos, car elle évite le discours uniquement autoréférentiel. Amélie Nothomb y joue un rôle d'hôte et de médiatrice, tandis que Laureline Amagneux organise la circulation des savoirs et des voix. Les entretiens sont complétés par des encarts, des citations et des images en noir et blanc, ce qui renforce la dimension de beau livre. Cette hybridation a une utilité précise, elle permet de faire coexister l'érudition et l'accessibilité. Le lecteur ne reçoit pas seulement des informations, mais voit comment elles s'articulent à des lieux, à des objets, à des gestes et à des formes. Le dispositif est particulièrement efficace pour un sujet comme le Japon, où le détail visuel et rituel compte autant que l'explication. Le livre se distingue ainsi par sa volonté de faire dialoguer savoir, mémoire et expérience sensibles dans un même ensemble cohérent. En dernier lieu, une lecture du Japon qui éclaire aussi la trajectoire littéraire d'Amélie Nothomb, au-delà du voyage culturel, l'ouvrage permet de relire toute l'œuvre d'Amélie Nothomb. Le Japon y apparaît comme une clé biographique et littéraire, puisque ses souvenirs d'enfance, sa relation au départ, puis son retour à l'âge adulte structurent une part importante de son imaginaire romanesque. Le livre montre que les romans de Nothomb ne sont pas seulement nourris par des thèmes japonais, mais par une manière japonaise de percevoir le temps, le rituel, la forme et l'intériorité. Cette perspective intéresse particulièrement les lecteurs qui connaissent déjà son œuvre et veulent comprendre ses sources profondes. Elle a aussi une valeur pédagogique pour ceux qui découvrent la culture japonaise, car elle relie les pratiques évoquées à une trajectoire concrète. En cela, l'ouvrage dépasse le simple hommage, il propose une lecture croisée d'une civilisation et d'une écrivaine. C'est cette double entrée qui en fait un livre singulier, à la fois portrait culturel, réflexion personnelle et instrument de compréhension de l'univers littéraire de Nothomb. En conclusion, le Japon éternel voyage sous les fleurs d'un monde flottant s'adresse d'abord à ceux qui s'intéressent au Japon traditionnel, aux spiritualités japonaises et à l'esthétique de l'éphémère. Il conviendra aussi aux lecteurs d'Amélie Nothomb qui souhaitent comprendre la place décisive du Japon dans sa formation et dans son œuvre. Son intérêt pratique est réel pour qui cherche une introduction structurée au shintoïsme, au zen, aux samouraïs, au théâtre no, au haïku ou au rapport japonais, aux gestes et à la sobriété. Son intérêt intellectuel vient de sa méthode plutôt qu'un essai académique ou un guide de voyage. Il propose une médiation vivante entre expérience personnelle, entretien et images. Ce qui le distingue d'autres livres sur le Japon, c'est précisément cette combinaison entre intimité, vulgarisation exigeante et forme visuelle. Le lecteur n'y trouve pas une vision exhaustive du pays, mais une lecture incarnée, cohérente et sensible, qui éclaire à la fois une culture et la trajectoire d'une écrivaine profondément marquée par elle. Si vous souhaitez soutenir Amélie Nothomb, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !